14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Vous le savez, c'est votre émission, hein, celle où vous avez la parole pour venir partager avec nous vos idées, vos projets, vos initiatives. On est à votre écoute. Nous sommes persuadés que vous êtes, chacun à votre manière, en train de construire ce fameux monde d'après dont on parle tant. Et vous allez voir que nous avons du monde qui se mobilise en ce moment pour essayer de penser ce futur. Pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et notre coach qui est avec nous toute cette semaine, Clara Audry. Bonjour Clara.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth.
Bonjour Clara.
Associée chez Cap Horn, vice-présidente de France Digital. Pendant la crise, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été stoppées net, hein, mais d'autres, vous allez le voir, ont continué à construire, à avancer malgré tout. Bonjour Bruno Cracco.
Bonjour mesdames.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Gojibo, alors G-O-J-I-B-O. Votre entreprise a vu le jour mi-mars. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer un chatbot, puisque c'est de ça que nous allons parler ensemble? Vous êtes, je crois, un amoureux de l'informatique et des nouvelles technologies.
Absolument. La crise de la Covid-19 a plongé tout le monde dans un principe de fonctionnement que certains connaissaient, qui sont les équipes virtuelles, c'est-à-dire qu'en fait on s'est retrouvé à travailler tous à distance, ce de manière un peu brutale, c'est sûr, et ça a permis de faire un saut de maturité, je pense, de quelques années en quelques semaines, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des jobs qu'on pensait impossibles à faire à distance qui sont en réalité possibles. Par contre, ce fonctionnement en équipe virtuelle a ses contraintes, puisque ça fait longtemps que ça existe. On sait que ça génère du stress, on sait que ça génère une forme de solitude par la distance au collectif, mais on sait aussi que ça peut générer beaucoup d'efficacité et que ça peut également beaucoup réduire les coûts de transport. Et donc, comme on a l'expérience de ce type de management, on a recensé les 5 défis que doit relever un manager dans ce contexte-là. Il doit constituer une équipe efficace, alors que parfois il ne les a jamais rencontrés. Il doit créer des synergies et de la collaboration au sein de ses équipes, de cette équipe. Oui. Il doit faire progresser et autonomiser tout le monde. Il doit motiver tout le monde et il doit lutter contre son propre sentiment de solitude pour donner du sens à tout ça.
Donc vous avez imaginé un robot conversationnel.
Exactement. Donc l'idée, c'est d'allier des modèles prédictifs en intelligence artificielle avec un bot pour créer un coach individuel pour tout le monde, ce qui d'habitude est réservé plutôt à quelques happy few. Donc concrètement, c'est un bot qui va s'adresser à tout le monde via la messagerie instantanée de l'entreprise. Donc c'est pratique, il n'y a rien à installer. C'est Teams ou ceux que l'entreprise a. Et il va avoir des conversations quotidiennes avec les gens. Et au travers de ces conversations, il va évaluer des paramètres, il va poser un diagnostic, il va faire des recommandations individuelles, personnalisées, très contextuelles, immédiates. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir « je fais tout mon diagnostic, puis un jour j'ai le résultat ». C'est en permanence au cours du diagnostic. Et en fait, sur cette base-là, il va constituer un ensemble de recommandations pour la personne que la personne peut retrouver dans un tableau de bord où elle a ses actions. Elle peut les suivre comme un plan d'action. Elle peut donner son feedback aussi sur ses actions. Et ça, c'est important pour nous pour faire progresser les modèles. Et tout ça en toute confidentialité, puisque c'est un bot. Donc, il n'est pas influençable. On ne peut pas lui tirer des informations qu'il ne veut pas vous donner.
Effectivement. Alors, on va voir tout de suite ce qu'en pense notre coach, Clara Audry. Parce que si vous êtes avec nous, c'est que vous essayez de trouver un financement pour la phase d'amorçage du business. Donc Clara, on vous écoute.
Oui, alors on voit beaucoup de chatbots en effet se créer, notamment dans les domaines du voyage ou du transport, pour répondre à des questions simples et redondantes. Combien de retard va avoir mon train, par exemple. Et la gestion du stress me paraît plus hétérogène d'un individu à l'autre, et donc peut-être sujette à des réponses variables. Et donc ma première question serait autour de la personnalisation. Comment vous faites pour avoir justement ce traitement individualisé sur la gestion du stress, qui me paraît être un sujet très large?
En fait, on s'appuie sur des modèles d'évaluation qui sont scientifiquement démontrés, qui ont fait l'objet de beaucoup d'études et qui ont été évalués en termes de psychométrie, qu'on a rendu conversationnel avec un psychologue du travail. On a travaillé sur le fait de ne pas dénaturer le test par le fait de le rendre conversationnel. Et ensuite, ce sont des réponses qui sont des questions assez fermées. Donc les réponses sont pré-fléchées et on établit comme ça le diagnostic.
Deuxième question, Clara, je crois, parce que vous avez dit première. si j'ai bien suivi.
Non, mais c'est très clair. Et donc, c'était une de mes questions. Au-delà du manager, on va avoir finalement un psychologue du travail qui a travaillé sur des questions fermées et qui permet de d'aiguiller Absolument. Un petit peu la consultation, si je peux employer ce terme. Parce que c'est vrai que si on reste au niveau de la réponse du manager, je voyais mal la différence avec les messageries type Slack et Teams. Mais
Non, c'est plus clair.
Il y a une vraie valeur ajoutée.
Bot, en fait, voilà, le bot implémente un modèle qui est un modèle de questionnement qui est scientifiquement élaboré et qui permet de cocher les cases une par une. Et d'ailleurs, il ne va pas l'administrer d'un coup, il va le faire au travers de conversations qu'il peut avoir sur plusieurs jours.
Elisabeth ?
C'est surtout pour répondre à la hausse du stress liée à cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire liée au télétravail, avoir un retour sur son travail. C'est vraiment ça qui vous a motivé à le mettre en place, votre robot conversationnel ?
En fait, ce qui nous a motivé à mettre en place le robot conversationnel, c'est d'améliorer l'efficacité des équipes. Et nous, on considère que le stress est un indicateur du mauvais fonctionnement. C'est-à-dire qu'une équipe qui fonctionne bien et qui est performante n'est pas stressée. Si elle est stressée, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est plutôt pour nous un indicateur de « il y a des choses à faire » que de dire « il faut traiter le stress comme le stress lui-même ». Voilà.
Quand est-ce qu'on prend la température, en fait, c'est ça ?
Ouais. C'est un thermomètre. J'emploie souvent l'image de la température du moteur. Si votre moteur chauffe, c'est qu'il y a un problème, en fait.
Votre robot, ça y est, il est déjà dans des entreprises ?
Alors, il tourne, oui. Il est en cours de déploiement dans certaines entreprises et on a même une version gratuite en ligne qui évalue le stress, qui est disponible sur raf.mygojibo.com.
Oui, parce que c'est son nom, il s'appelle Raf.
Il s'appelle Raf. Voilà, l'idée, c'est que c'est un collègue.
C'est pour vous, Raphaël. C'est un petit clin d'œil.
C'est ça. C'est pas fait exprès, mais c'est ça. Et c'est un collègue bienveillant, en fait. C'est un collègue qui s'intéresse à tout le monde, qui est une sorte de père.
Les Raf sont toujours bienveillants.
Exactement.
On en sait quelque chose, hein, Elisabeth. On a des Raf chacun dans notre famille.
Oui, et dans notre entourage professionnel.
Exactement.
Surtout.
Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va évidemment suivre avec grand intérêt la suite de cette aventure avec votre chatbot. Il est 13h15.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on va découvrir une solution avec Elisabeth Assayag qui s'intéresse aux plateformes médicales et vous allez voir qu'elles aussi se sont adaptées à la crise du Covid, notamment Curecall. Il est 13h18, c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag, Raphaël. Suivre des personnes atteintes de maladies chroniques, de longue durée, pendant et après le confinement, à distance, sans se déplacer pour lutter contre le décrochage thérapeutique, c'est une solution que propose Curecall, cette solution de télémédecine. En fait, Elisabeth croulait sous les demandes pendant le confinement et manifestement, ça continue.
Oui, ce sont des conseils sur mesure pour les personnes atteintes notamment de maladies chroniques. Ces personnes, elles sont 23 millions en France. Et Curecall, c'est une solution de télémédecine à destination des médecins. Et ils l'ont vu depuis le début de la crise sanitaire. Cette solution, elle accompagne plus que jamais le suivi thérapeutique des patients. Comment ? Eh bien, elle met à disposition des médecins une plateforme de télésuivi. L'objectif, c'est de ne pas laisser de côté des personnes en traitement qui ont du mal à se déplacer chez le médecin. Même encore maintenant, si on est en période de déconfinement, il y en a qui restent chez elles, qui n'ont pas encore le réflexe de téléphoner ou d'aller voir leur médecin. Curecall facilite automatiquement le suivi de ces patients en leur envoyant des rappels pour la prise de traitement, pour la prise de rendez-vous clés. D'ailleurs, pendant le confinement, des conseils gratuits ont eu lieu pour suivre au plus près ces personnes fragiles. Bonjour Mohamed El Bojadaini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci de m'interviewer aujourd'hui.
Vous êtes le fondateur de Curecall. Alors, on l'a compris, vous êtes une solution de télémédecine. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour votre entreprise avec cette crise du coronavirus ?
Alors, ce qu'on a pu observer, nous, c'est qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques qui sont tombées du côté des médecins. C'est-à-dire là où avant, la technologie était vue un peu comme une sorte de gadget. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil central dans la gestion des patients par les médecins, par les professionnels de santé. Alors que ce soit les professionnels de santé qui sont dans des organisations telles que les hôpitaux, mais également les cabinets, c'est-à-dire les généralistes qui souvent peuvent gérer des milliers de patients, aujourd'hui se rendent compte de l'utilité finalement du confort que cela peut apporter pour les patients, mais également pour eux-mêmes en tant que médecins.
Mais quel confort du côté des médecins, mais aussi des patients, qu'est-ce que ça apporte de plus ?
Alors, ce que ça apporte de plus pour les patients, c'est que ça fait office réellement d'un assistant de poche qui est personnalisé. C'est-à-dire, au quotidien, vous recevez en permanence des outils, des conseils qui vous permettent de mieux gérer votre maladie, surtout de faire face aux situations imprévues. Et on l'a vu que pendant le Covid, finalement, la situation a été quand même assez exceptionnelle. Les rendez-vous de contrôle ont été décalés, ce qui fait que les périodes entre les consultations ont été énormément rallongées. Qui dit rallongement de ces périodes-là dit forcément des problèmes auxquels font face les patients. Donc, dans la gestion de leur traitement, la gestion de leurs symptômes, il y a énormément de choses quand vous êtes patient, essentiellement quand vous êtes un patient chronique, donc vous vivez avec un diabète, maladie cardiovasculaire, diabète, mais même les cancers aujourd'hui qui ont tendance dans le temps à devenir chroniques ou d'autres pathologies, parce qu'aujourd'hui, l'avancée de la médecine fait que les maladies à terme finissent par devenir chroniques. Font qu'aujourd'hui, un patient fait face à énormément de choses et de questionnements.
En moyenne, on est dans le suivi sur mesure.
C'est dans le suivi sur mesure, exactement. Par exemple, un diabétique consacre en moyenne 2 heures par jour à la gestion de sa maladie. Et finalement, quand vous vous rendez compte, quand vous mettez des chiffres derrière justement ces problèmes de gestion au quotidien de leur maladie, il faut qu'on apporte des solutions. Et aujourd'hui, justement, les outils digitaux tels que QRCode nous permettent, nous, justement, de mettre en place un accompagnement permanent, de répondre aux questions. Et si vous voulez, la tragédie qui s'est passée pendant le Covid, c'est que beaucoup de patients se sont roués sur les forums, sur Internet, où il y a énormément d'informations. Et cette masse d'informations fait que souvent, on peut créer parfois des drames.
C'est là où vous intervenez avec le médecin.
Tout à fait, avec le médecin. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on fournit une solution clé au médecin où il a en clair du contenu, il a tous les éléments, tout le support nécessaire pour pouvoir accompagner le patient. Et lui, il a une tour de contrôle qui lui envoie des alertes lorsque le système détecte des alertes, c'est-à-dire des décrochages, une non-observance du patient, un problème lié au patient qui nous est remonté dans le système, et ainsi de suite. Donc vraiment, ça se comporte comme un assistant de poche également pour le médecin.
Notre coach, Clara Audry.
Bien déjà, merci pour de porter cette mission très noble. Et on voit bien que la douleur, le stress ou la souffrance n'ont pas d'horaire et n'attendent pas nécessairement la fin du confinement. Donc le digital et votre plateforme permettent d'améliorer les choses. Moi, j'avais une question concernant le contenu un peu de cette plateforme en fonction des différentes maladies. Est-ce que vous avez visé un nombre limité de maladies et pour justement avoir du côté des questions et des réponses peut-être un contenu adéquat, ou est-ce que c'est extrêmement large et chaque médecin en fait va peut-être adapter à sa sauce sa plateforme ?
Alors nous, on a une sorte de bibliothèque donc de contenu qui est adapté à différentes pathologies. Donc on regroupe à peu près, je pense, 80% des maladies chroniques globalement. Et le médecin, globalement, adapte l'expérience. Nous, on fournit une expérience clé en main standard. Et le médecin, lui, ce qui l'intéresse, au-delà de, je dirais, l'aspect contenu, lui, ce qui l'intéresse, c'est globalement quelles sont les alertes que le système va émettre en fonction des tâches réalisées par le patient. Et c'est là où vraiment il y a une vraie personnalisation. Alors, pendant le Covid, ce qu'on a observé, nous, c'est qu'on a eu également énormément de gens, parce que le dispositif que nous avons mis en place pendant le Covid a été double, à la fois destination du grand public, et c'est là où on a été très surpris, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui n'est pas forcément porteur au sens propre d'une maladie chronique, mais se sentait fragilisé, avait des angoisses qui sont apparues. Et là, dans ce cadre-là, on a plutôt mis en place du contenu assez générique. Par contre, dans le cas des maladies chroniques, effectivement, le contenu qui a été mis en place a été vraiment mis en place et adapté à chaque médecin ou en tout cas institution médicale.
Elisabeth, y a-t-il des nouvelles spécialités qui sont venues à vous ? Vous parliez des médecins généralistes, des cancérologues, mais certains étaient frileux par rapport à la télémédecine et je crois qu'ils sont venus à vous pendant cette période.
Tout à fait. Par exemple, ce qui est assez surprenant, par exemple, c'est les maladies mentales. Là-dessus, on a eu, il y a eu effectivement des spécialistes, en tout cas des médecins qui ont manifesté leur volonté, ou particulièrement les maladies oculaires.
Là où souvent, donc les ophtalmos. Ils se sont manifestés, ils se sont dit « tiens, ça pourrait être un outil intéressant avec nos patients ».
Tout à fait, parce qu'en ophtalmologie, par exemple, nous, une maladie qu'on connaît très bien qui est le glaucome, qui est une maladie qui est silencieuse pour les patients, c'est-à-dire que le patient ne ressent presque aucun symptôme. Sauf que nous, on s'est rendu compte, en ayant rencontré énormément de patients, on a eu des drames, parce qu'on avait rencontré un jeune patient qui venait juste de se faire diagnostiquer, dont les consultations ont été annulées pour pouvoir confirmer son diagnostic, sauf que le problème, c'est que son nerf optique s'est tellement dégradé qu'il a perdu la vue. Et c'est ce genre de drame que vous avez en ophtalmo aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de maladies qui peuvent être silencieuses et dans lesquelles l'absence de suivi ou de contrôle médical renforcé, une réactivité en tout cas des professionnels de santé, peut conduire à des drames. Et c'est là où effectivement les ophtalmos ont très vite saisi l'importance de ce type de solution, qui est justement en mesure de garder ce lien et de faire en sorte d'identifier très rapidement les patients en situation de décrochage.
Et on s'aperçoit effectivement de l'utilité hein, de ce type de système que vous avez mis en place. Curecol, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Il est 13h25. Europe 1.
Et vous restez avec nous. On ouvre notre dossier consacré au plexiglas et aux alternatives. À tout de suite.
La France Bouge s'intéresse cet après-midi dans le dossier du jour aux alternatives à un matériau qui est très plébiscité pendant cette crise, Raphaël, le plexiglas.
Et oui, c'est vrai que vous savez que nous sommes depuis le mois de mars tous soumis à de nouvelles règles, hein, de nouvelles habitudes. Alors le masque, bien sûr, le gel et vous l'avez dit, les fameuses distances à respecter dont ces barrières qu'il faut mettre un petit peu partout, dans les bureaux, dans les restaurants. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Il existe le plexiglas, mais pas seulement, vous allez voir. Bonjour Frédéric Renard.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de la marque Paracovid. Vous êtes du côté de Vence, dans les Alpes-Maritimes. Très vite, je crois que vous vous êtes rendu compte que le plexiglas était vraiment très prisé, mais vous avez dit, moi j'ai envie de chercher autre chose, un équivalent qui soit peut-être un peu plus disponible sur le marché et aussi un peu meilleur marché.
Oui, c'est bien ça. En fait, on s'est très très rapidement aperçu que le plexiglas allait commencer à monter. Et on a réfléchi immédiatement à une solution alternative qui soit disponible immédiatement. Et on a mis au point notre système Paracovid qui n'utilise pas de plexiglas. Ça nous permet d'avoir une réelle disponibilité immédiate ainsi qu'un bas coût dans la mesure où le plexi venant à monter.
Alors je vais peut-être vous demander de bouger un tout petit peu parce qu'on vous entend très très mal, pour tout vous dire. Donc je vais profiter, je vais donner la parole à Elisabeth. On va s'intéresser justement au plexiglas. Je vais y arriver, plexiglas. Et je vais vous demander peut-être de bouger un tout petit peu pour que la liaison soit meilleure. Elisabeth, le plexi, il s'arrache à prix d'or, on peut le dire?
Oui, parce que le plexiglas, c'est devenu l'élément indispensable pour la reprise des commerces. Les restaurants, les endroits où qui accueillent du public, les commerçants réfléchissent à mettre en place du plexiglas. D'ailleurs, les parois de le plexiglas sont en rupture de stock chez la plupart des distributeurs. Les prix ont grimpé. Les délais de livraison, qui normalement sont de 2-3 semaines, peuvent atteindre 4 mois aujourd'hui. Certaines commandes passées cette semaine par les distributeurs n'arriveront peut-être pas avant l'automne, alors que, je vous dis, le délai habituel, il est d'une à 3 semaines.
Ouais, les prix ont augmenté de combien ?
Alors, c'est difficile de donner un ordre de grandeur, mais le prix, oui, a flambé et c'est d'environ 30% d'augmentation selon les enseignes. Il y a des acteurs qui disent même entre 30 et 100% hein, d'augmentation. La facture peut doubler. Surtout quand on passe par des nouveaux distributeurs qui, eux aussi, se sont adaptés parce qu'ils ont besoin de sortir la tête de l'eau. Donc, ils dépannent ceux qui en ont besoin avec quelques plaques dans des délais plus courts. Et c'est comme ça que ça peut flamber.
Alors, retour avec vous, Frédéric Renard, du côté de Vence. Paracovid, ça consiste à quoi? Vous avez des protections qui combinent le PVC et le bois mélaminé?
C'est exactement ça. En fait, on a vu énormément de bricolage. Des choses construites à la hâte avec du plexis que les gens arrivent à trouver à disposition immédiatement. Et nous, on a réfléchi à quelque chose qui serait esthétique, d'une part, mais aussi qui serait accessible à tout le monde. Enfin, sachant personnellement que les gens n'ont pas eu d'activité pour la plupart pendant 2 mois, l'idée, c'était d'avoir vraiment un produit qui soit, d'une part, beau, un surmeuble et accessible parce que aujourd'hui, les gens n'ont plus vraiment de moyens pour pouvoir s'équiper avec du plexis. Pour lequel les prix ont flambé réellement.
Et c'est fait à l'échelle artisanale une centaine par jour. Vous restez avec nous, on va voir qu'il y a différents matériaux et que ça a donné des idées notamment à la Sofareb. Bonjour Franck Chauveau.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le co-gérant de cette société qui est basée en Vendée, une PME. Vous aussi, vous cherchiez, je crois, à développer une alternative bas coût au plexi.
Alors nous, c'était pas forcément pour pour un marché particulier, c'était surtout sur des demandes de nos clients, où on est aujourd'hui des confectionneurs installateurs de membranes composites armées, donc pour faire simple, de la bâche, et on utilise tous les jours de la bâche transparente qui, par sa souplesse et sa légèreté, permet de s'installer très rapidement sur des toiles ou sur des comptoirs, comme on l'a pu le faire aujourd'hui.
Oui, parce que votre spécialité, c'est la fabrication de bâches de protection. Donc, normalement, on les met sur les piscines, etc., donc, ou les mobilhomes. Là, vous avez adapté votre production pour pouvoir fournir vos clients.
Oui, on adapte notre production et surtout, on s'adapte à l'environnement du client. C'est surtout ça le plus important. Aujourd'hui, avec le type plexiglas ou choses rigides, c'est compliqué quelquefois de se poser sur des comptoirs, ça prend de la place. Nous, on arrive avec notre petite toile que l'on vient suspendre, accrocher au plafond. On vient aussi faire le principe un petit peu plexiglas où l'on vient créer des cadres avec des menuisiers qu'on a autour de chez nous qui viennent nous donner la main là-dessus. Et ça permet surtout de créer un environnement aux besoins du client, du commerçant, ou coiffeur. On a fait des coiffeurs aussi.
Moi, je voudrais savoir, ça s'appelle comment le cristal, c'est ça, cette matière?
C'est ça, dans le jargon, on va dire, dans le jargon du bâchiste, ça s'appelle du cristal. Donc, c'est une toile PVC qui est translucide.
Une sorte de rideau transparent, oui.
Voilà, c'est ça.
Clara Audry, notre coach.
Oui, alors je comprends que vous équipez vos clients historiques, en tout cas une partie d'entre eux. Est-ce qu'il y a des typologies de commerce qui sont les plus friands de ces produits? Et si on se projette un petit peu plus loin, on espère un jour post-Covid, est-ce que finalement vous allez garder cette ligne de produits en plus des historiques? Est-ce que les bâches historiques, c'est fini? Comment un petit peu votre entreprise va évoluer dans le temps?
Alors, nous, on va toujours garder nos bâches historiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est qu'on est toujours, on a toujours été créateurs. On est toujours à la recherche de solutions pour nos clients. Donc ça en fait partie. C'est une solution que l'on a trouvée et qui peut s'adapter dans plein de situations. Pas forcément chez nos clients habituels. Ça peut aussi être chez d'autres clients. Donc on travaille à l'heure actuelle avec un transporteur des bus scolaires, donc
ah oui.
qui permettront justement de séparer le chauffeur, de séparer les enfants des uns des autres. Donc on a plusieurs alternatives. Donc c'est un produit supplémentaire sur la multitude de produits que l'on fait aujourd'hui.
Ouais, ce sont de nouveaux débouchés finalement pour vous.
Oui, quelque part, oui. Alors après, ça peut servir pour la crise, évidemment, que l'on connaît aujourd'hui, mais ça peut être aussi des choses qui peuvent se faire dans d'autres circonstances. Donc oui, c'est un nouveau débouché. C'est encore une panel de plus à notre savoir-faire.
Elisabeth,
je voulais vous demander comment ça se passe au niveau du recyclage. Est-ce que c'est vos matières sont, entre guillemets, bonnes pour l'environnement ou là aussi, il va falloir encore se poser d'autres questions pour pouvoir ne pas abîmer notre planète en trouvant ces solutions pour respecter la distanciation sociale?
Donc on a des solutions de recyclage aujourd'hui qui existent grâce à notre partenaire qui est Serge Ferrari, car on fait partie d'un réseau qui s'appelle les experts Serge Ferrari. Et Serge Ferrari a des solutions aujourd'hui de recyclage des matières de façon à ce qu'elles repartent dans le circuit. Donc c'est des choses qui sont en cours. On est, c'est vrai, sur un matériau qui est à base de pétrole, qui n'a pas forcément aujourd'hui une belle image, mais c'est des choses qui vont évoluer dans le temps, car on est vraiment très soucieux de l'environnement et on veut surtout que notre produit puisse resservir indéfiniment quelque part.
Et c'est vrai que c'est important de faire attention à notre planète et d'être utile aussi à la société. Merci messieurs d'avoir été avec nous et encore pardon pour la liaison qui n'était pas excellente avec les Alpes-Maritimes. La France bouge, continue.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et vous parliez d'environnement, justement, on va pousser l'innovation encore plus loin pour trouver des protections originales et écolo. A tout de suite.
Europe 1.
Le dossier du jour dans La France bouge est consacré aux alternatives au plexiglas qui s'arrache à prix d'or à la faveur du déconfinement, Raphaël.
Ouais, le plexiglas, le plastique, certains d'entre vous préfèrent ne pas investir dans ces matériaux, mais existe-t-il pour se protéger des alternatives plus propres, plus écologiques? La réponse est oui. Bonjour Maxime Morin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable du département quart de poil au sein du groupe Au-delà du chocolat. Vous êtes basé en Ille-et-Vilaine, à Fougères. Et alors, depuis 20 ans, en fait, vous concevez, vous, des meubles en carton. Du coup, avec le ou la Covid, hein, comme vous voulez, vous avez lancé des séparateurs qui permettent d'isoler les espaces de travail. Le tout, et ça c'est très fort, étant personnalisable.
Voilà, c'est ça. On a essayé de s'adapter aux besoins des restaurateurs et des espaces de travail de nos clients avec des formules économiques et adaptées à leurs besoins et personnalisables 100%.
Alors, ça ressemble à quoi, votre carton ?
Alors, c'est une paroi de carton autoportée dans lequel vient se mettre une fenêtre avec une feuille plastique
autoportée,
à l'intérieur.
Autoportée, ça veut dire qu'il tient tout seul ?
Voilà, qui tient tout seul à l'aide de deux pieds.
D'accord.
Que l'on vient clipser à la réception. Et donc, on a une fenêtre plastique à l'intérieur qui peut être nettoyée avec une solution désinfectante.
Oui, et ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, effectivement, peuvent se brancher sur europe1.fr puisqu'on vous a mis les images. Vous pouvez créer des formes différentes, c'est ça ?
Voilà. Alors, les fenêtres peuvent être découpées à différentes silhouettes, différentes formes, selon le besoin de nos clients et selon leur charte graphique.
Votre carton, il est 100% recyclé ?
Alors, il est fabriqué à partir de fibres de papier et de fibres cellulosiques de 85 à 100% recyclées.
Vous ajoutez, je crois, une plaque à l'intérieur. Hein, vous dites que c'est moins cher que le plexi. Elle est en quoi,
voilà,
cette plaque ?
C'est une feuille de polypropylène.
D'accord.
C'est semi-rigide et ça permet de nettoyer facilement.
Oui, donc ça vient entre les deux couches de carton, finalement.
Voilà, c'est ça. C'est en sandwich dans le carton.
Combien de lieux vous avez équipés comme ça depuis le début ?
Pour l'instant, on est à une trentaine de restaurants et on a équipé toutes les boutiques Orange du Grand Ouest pour séparer et avertir les clients.
Que dit notre coach, Clara Audry ?
Alors moi, j'avais une question. J'ai pas vu le produit, donc peut-être qu'elle n'est pas pertinente, mais est-ce qu'il y a une absence de transparence dans votre produit ? Parce que le carton, j'imagine que... Ou est-ce que vous avez trouvé une solution, entre guillemets, et s'il n'y a pas de transparence, ce n'est pas un problème pour vos clients ?
Alors en fait, si pour tout ce qui était les boutiques Orange, c'était un panneau d'information, donc une paroi complètement en carton. Pour tout ce qui est restauration et espace de travail, on a mis justement cette fenêtre avec une feuille de plastique transparente pour pouvoir voir ce qui se passe derrière la paroi. Quand vous êtes en plein service et vous voulez savoir si les gens ont fini de manger sans les déranger, puisque la paroi crée un effet cocooning également. Donc avec cette fenêtre, on peut voir ce qui se passe derrière et garder le contact avec la table d'à côté ou le serveur ou son collègue de travail.
Oui, donc il y a les deux options qui sont possibles. Effectivement, voilà. Il y a beaucoup d'alternatives qui sont en train de se développer, Elisabeth, alternatives au plexi, bien sûr.
Oui, on en a entendu déjà tout à l'heure. Vous avez par exemple l'entreprise Armor Publicité Marquage qui a décidé de se lancer dans la production d'hygiaphones. Parce que voilà, il y a le plexi, mais il y a aussi les hygiaphones. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises sur ce créneau. Vous avez aussi, c'est anecdotique, mais c'est intéressant, un EHPAD situé près de Dunkerque qui a testé un concept pour faciliter les visites entre les résidents et leurs proches. Il s'agit d'une tente sous la forme d'une bulle. C'est un concept qui vient du nord de la France et une partie de la structure a été fabriquée dans Lyon. Vous avez BioWork. BioWork, ils sont habitués à aménager des espaces de plantes dans les entreprises. Et eux se sont dit, on va tenter de faire respecter la distanciation sociale entre les collaborateurs, mais sans mettre cette plaque de plexi qui est un petit peu froide et sans âme. Et donc, eux, ils placent le végétal dans les bureaux à la place du plexiglas. Ils disent que des plantes, ça pourrait être la solution. Une distanciation physique grâce aux plantes, ça permet d'égayer aussi cette fameuse distanciation physique, avec en plus les effets bénéfiques sur les plantes au travail et avec les collaborateurs.
Alors, on a les plantes, on a le carton, on a aussi le verre. Bonjour Pierre Rioux.
Bonjour.
Merci
Bonjour
d'être
à vous.
Avec nous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le président fondateur de Rioux Glass, un millier de salariés un peu partout en France. Et vous avez, vous, créé un verre auto-désinfectant. Alors, je crois que ça fait 10 ans que vous avez commencé à travailler sur des vitraux chauffants. Mais là, du coup, avec le Covid, vous avez remis vos équipes de recherche et développement sur le coup.
Oui, c'est ça. Je vous remercie déjà de me prêter la parole. Et on a remis nos équipes sur ce sujet-là, compte tenu que les vitrages connectés, c'est notre force. Et lorsque l'on a vu que dans les EHPAD, on ne pouvait pas aller voir les parents, et comme on connaissait les vitrages chauffants, on s'est dit, pourquoi pas fabriquer un vitrage chauffant qui puisse monter à 75 degrés, de telle manière à faire une paroi de protection dans les hôpitaux, dans les EHPAD, également dans les trains, les glaces latérales des trains. Ce sont des produits tout à fait qui existent depuis longtemps, que l'on mettait à 20 degrés de chaleur, à 45 degrés maximum, Mais en ayant travaillé avec des professeurs sur l'hôpital de Lille et qui nous ont dit qu'à 56 degrés, ça commençait à faire faillir le Covid-19 et qu'à 70 degrés, il mourait automatiquement.
Donc votre verre monte à 70 degrés. Alors évidemment, j'ai une question 75. Toute bête. Je peux mettre la main dessus sans me brûler ?
Vous pouvez toucher et enlever la main aussitôt, il n'y a pas de souci.
Bon.
Il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut savoir que le verre est un matériau noble, un matériau égyptien. Il nous protège contre tout. Il nous protège contre le froid. Il nous protège contre le chaud. Il nous protège contre le bruit. Il nous protège contre la sécurité. Et demain, il nous protège contre les maladies comme le Covid. C'est un matériau qui est très noble et super.
Et comment vous avez fait ? Donc, il s'appelle Ligia Glass, hein, je crois. Quelle est sa spécificité ? Comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte qu'il tue les bactéries ?
Voilà, donc on a monté une gamme Ligia Glass. C'est des écrans de protection. On a commencé dès le départ à en fournir dans nos commerces locaux sur la Normandie. Hein, c'est un produit normand. Et à partir de là, on s'est intéressé à le fabriquer à plus grande échelle. Hein. On a élaboré toute une gamme de produits avec différentes dimensions qui s'adaptent à tous les commerces, qui s'adaptent sur les bureaux. Et de là, nous avons, c'est de là que nous avons dit, maintenant, il faut y amener la température. Et cette température, elle est faite par des millions de petites particules métalliques qui sont dans le verre et que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont branchées, par contre, sur l'électricité. Oui.
Clara Audry.
Une question sur le nettoyage de ce type de paroi. Est-ce que comment s'effectue ? Je crois qu'il y a des règlements à faire, enfin des nettoyages réguliers, très réguliers à faire, notamment en milieu hospitalier. Comment ça peut se passer avec la température à 70 degrés ?
Voilà, donc avec nos collaborateurs, c'est un vitrage qui est à température normale. Hein, et ensuite, nous pouvons y adapter des sondes. Lorsqu'il n'y a personne à côté, il se met en route automatiquement. Ou il y a un petit programmeur, un programmateur qui vous dit, voilà, tous les 10 minutes, il chauffe à 75 degrés et il s'arrête. Et après, bah, c'est un petit coup d'eau de javel, un petit coup, ce sont les entretiens traditionnels.
Comme une vitre classique, vous en avez posé déjà beaucoup, Pierre-Yves ?
Oh là, actuellement, nous avons un carnet de commandes de 1000 pièces à peu près.
Ah oui,
les 1000 pièces sur mesure, et on peut également faire la sérigraphie dessus pour les personnaliser et également mettre les mesures de sécurité imprimées dans le verre.
Oui, on arrive à inventer des choses formidables ici en France. On est ravis de vous avoir avec nous. Je voudrais qu'on termine, Elisabeth, en expliquant que finalement, ces matériaux, aujourd'hui, ils s'imposent un petit peu partout et qu'il y a même des entreprises qui se sont mises au plexiglas pour relever la tête.
Oui, notamment Publimax. Publimax, ils sont basés près de Montauban. Leur cœur de métier, c'est l'enseigne lumineuse et tout ce qui tourne autour de la communication sur des supports comme les panneaux que l'on voit dans la rue ou les panneaux des commerçants. À la base, ils n'avaient pas forcément la matière première en quantité suffisante, mais ils avaient les machines. Ils se sont dit, on va répondre à la demande parce qu'il y a énormément de demandes de plexi. C'est comme ça que le plexiglas a commencé à intégrer leur activité. Petit à petit, ils se sont adaptés à la forte demande en multipliant les contacts avec leurs fournisseurs qui étaient débordés. Ainsi, le plexiglas peut permettre, pour l'instant en tout cas, une reprise économique dans de bonnes conditions pour tout le monde. Hein. Quand on s'adapte, on peut relever la tête de l'eau.
Merci Pierre Rioux, merci messieurs d'avoir été avec nous. La France bouge continue bien sûr. D'ici quelques instants.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et on va peut-être vous donner un coup de main, vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous joindre, bien sûr. C'est Nathalie Carré de la CCI France qui aura votre dossier en main. A tout de suite.
C'est la dernière partie de l'émission, Raphaël, avec comme chaque jour le coup de main de la France bouge. Et pour en bénéficier, c'est simple, il suffit de nous écrire par mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge, tout accroché, @europe1.fr.
Oui, si vous avez une question qui reste en suspens, si vous avez un problème à résoudre créé par cette crise du coronavirus, n'hésitez pas, vous nous écrivez et nous ferons en sorte que votre dossier atterrisse dans les mains expertes de Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Et expert entrepreneuriat à la CCI France, chargé de mission. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec Michaël Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Top Order, la SAS Top Order. Vous avez une question à poser évidemment à Nathalie, parce que je crois que votre projet innovant Top Order vient de subir des refus concernant le financement justement.
Voilà, exactement. Effectivement, nous avons demandé, suite au contexte actuel et la crise du Covid-19, des aides, notamment du prêt garanti de l'État et également le prêt rebond flash qui a été mis en place sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons reçu effectivement deux refus récemment, la semaine dernière, à propos de nos deux demandes.
Alors, vous avez subi deux refus alors que votre projet était considéré comme innovant parce qu'il propose des solutions dédiées au commerce de proximité, hein, donc des solutions de digitalisation. Or, on voit bien qu'en ce moment, c'est devenu pratiquement indispensable d'en avoir à notre disposition.
Voilà, exactement. Nous, on arrive avec une solution qui va permettre de digitaliser un petit peu le commerce de proximité et permettre, on va dire, de faire des commandes digital dans ces commerces de proximité, donc plutôt en lien avec la distanciation sociale demandée à tout le monde avec cette crise sanitaire. Et nous avons subi ces deux refus qui, a priori, aujourd'hui sont retournés à l'étude du fait qu'on a pu mettre en avant les éléments innovants qu'on apporte dans ce contexte actuel. Mais c'est vrai qu'on avait des questions qui se posaient notamment sur les critères des dispositifs mis en place et la clarté de ces critères.
Alors justement, Nathalie, est-ce qu'on peut aider à y voir un petit peu plus clair? Quels sont les critères? Est-ce qu'il y en a déjà? Et si oui, quels sont-ils?
Alors effectivement, il y avait des critères, mais finalement, vous êtes dans cette situation de jeune entreprise qui a démarré, mais pas complètement, puisque vous avez déjà des produits, mais vous n'aviez pas démarré la commercialisation. Et du coup, vous êtes un peu entre deux eaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné, en tout cas au début, il y a eu une prise en compte assez stricte des critères, c'est-à-dire a dû s'arrêter ou a dû avec une activité qui a fortement baissé en raison de la crise. Or vous, en fait, vous n'aviez pas démarré, du coup, ça a pas baissé. Oui, c'est idiot, hein, mais bon, mais donc là, effectivement. Vous avez peut-être entendu ce matin Bruno Le Maire annoncer un plan spécifique pour les startups. Il y a le Premier ministre qui a annoncé un plan spécifique pour les très jeunes entreprises. Donc, il est quand même fortement probable que votre dossier effectivement soit revu, que vous puissiez le redéposer. Le gouvernement a fonctionné par étapes en essayant de gérer les urgences. Donc là, on arrive effectivement à d'autres secteurs comme les très jeunes entreprises ou l'innovation, les startups. Donc il y a de fortes chances que votre dossier repasse. D'autant que les bonnes nouvelles quand même, c'est que les taux d'acceptation des crédits d'investissement sont à 85%. Les taux d'obtention, donc on est sur un niveau normal en fait là de récemment, et que les levées de fonds ont repris leur niveau normal puisqu'on a levé 550 millions au mois de mai, ce qui est même plus que l'année dernière finalement. Donc le contexte est plutôt favorable pour vous.
Le contexte est favorable et c'est vrai que l'activité devait démarrer au mois de juillet, je crois. Donc c'est repoussé, mais manifestement les choses vont être prises en compte. Vous nous dites redéposer un dossier. Je voudrais l'avis de Clara Audry sur cette question.
Oui, alors c'est vrai que pour aller dans le même sens que Nathalie, quand vous n'avez ni chiffre d'affaires ou activité en entrée, ni charge, donc des salariés, une équipe à payer, les aides qui ont été mises en place jusqu'à présent sont peut-être complexes à aller chercher. Néanmoins, alors le prêt rebond avec les régions, il me semble que vous êtes dans la cible. Et ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est avoir recours au médiateur du crédit. Sur récépissé d'une réponse négative de votre banque, contactez par email le médiateur, donc c'est médiation.crédit. Avec le numéro de votre département qui vous permet en fait de lui d'écrire au médiateur du crédit, et vous recevez une réponse dans les 48 heures parce que votre dossier sera réétudié. Donc ça peut être une piste, le médiateur du crédit, et sinon en effet l'attente des nouveaux dispositifs pour les très jeunes entreprises qui ne devraient pas tarder.
D'autant Nathalie que les critères vont forcément changer.
Ce que j'ai envie de dire à Mickaël, c'est que finalement, alors ce que je vais dire est peut-être délicat à entendre, mais finalement, c'est un report de début de commercialisation de 2 ou 3 mois. Je me demande s'il faut, il faut aller chercher des crédits qui vont arriver peut-être par le plan jeune entreprise ou par le plan start-up. Mais finalement, vous êtes dans un processus normal d'entrepreneuriat. Donc, il faut que vous alliez lever l'argent comme d'habitude. Enfin, j'ai envie de dire presque comme d'habitude. Presque comme d'habitude. Parce que vous avez déjà des produits qui existent. Donc, ça, c'est la preuve du concept qui est aujourd'hui totalement fondamentale pour tout financeur. Et vraiment, vous insistiez sur le terme de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, elle ne suffit plus. Il faut vraiment apporter des preuves de la valeur qui est créée pour le client. L'innovation, c'est bien, mais il faut que ça règle ce qu'on appelle un pain point dans le monde de l'entrepreneuriat, un vrai besoin, un vrai problème. Donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut que vous mettiez en avant, plus que finalement l'innovation,
qui est un outil. On est d'accord que c'est le cas. La solution à un problème donné, notamment pendant la crise, mais qui va sûrement être utile après.
Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut plus mettre en avant, exactement.
Mickaël.
C'est exactement ça, c'est une solution qu'on a créée du coup en amont de la crise et qui a été réfléchie il y a déjà plusieurs années, avec un prototype sur le marché qui effectivement répond à des breakpoints comme vous le citez. Il faut savoir que effectivement depuis mon poste sur LinkedIn, qui a, on va dire, relevé pas mal de questionnements et de commentaires. Notre dossier a été revu, a été repris en main, et il semblerait que voilà, il bouge sur des réponses positives. Je suis d'accord avec vous aussi, effectivement, il y a eu un temps à adapter dans cette crise-là par rapport à la taille de l'entreprise, aux enjeux derrière, et je pense que toutefois, ces dispositifs ont été mis en place correctement. Mais effectivement, il y avait des critères qui ont dû être ajoutés au fur et à mesure parce qu'il y avait certaines entreprises qui passaient au travers de certains critères mis en place.
Ouais, aujourd'hui, le gouvernement fait en sorte que les aides concernent effectivement tous les acteurs. Hein. On a peut-être, comme le disait Nathalie, procédé par priorité, c'est-à-dire les entreprises déjà existantes qui avaient des salaires à payer et puis ensuite peut-être les entreprises qui étaient en train d'éclore qui sont arrivées en second volet. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Évidemment, vous nous tenez au courant, Mickaël, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de demandes qui nous parviennent sur l'adresse Europe 1, des cas similaires aux vôtres. Et évidemment, on fera en sorte de les étudier ensemble avec vous, Nathalie Carré. On vous retrouve demain sur Europe 1.
À demain.
Juste avant 14h, on retrouvera Clara Audry, notre coach, toute cette semaine. Et bien sûr, Elisabeth Assayag, nous parlerons. Elisabeth,
demain de
Stop Covid, ouais. Et évidemment, des autres.
Vous avez réussi à la télécharger,
J'ai eu du mal.
Mais moi aussi, j'ai du mal. Ouais. On va en parler
c'est
demain.
C'est un peu
justement.
Compliqué, on en parle ensemble demain. À demain.
À demain, Raphaël Duchemin. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.